Eh bien, merci. Merci de votre accueil. C'est une joie d'être ici. C'est aussi une grande responsabilité. Et surtout avec le texte qu'on va voir ce matin, vous allez comprendre pourquoi. Alors bon, voilà, comme il a dit, je m'appelle Jean-Pic. On est dans la région avec ma famille, donc ma femme et Christine et nos trois enfants, Célia, Éline, Noélie, qui ont 5, 10 et 12. On habite à Trévoux donc depuis 5 ans. Et ma femme vous passe bien ses salutations. Elle n'a pas pu venir parce que notre fille aînée fait un camp scout. Elle commence tout à l'heure. Donc c'était les grands préparatifs à la maison. Et j'ai vu que vous avez un projet de partir à Madagascar, si j'ai bien compris. Donc, je pense qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui vont partir à Madagascar. Nous, on est parti il y a quelques temps dans Centrafrique, fin d'année dernière. On est parti un mois et on a acheté le bouquin qui va bien, qui s'appelle Un petit futé. Il y a aussi des guides du routard qui permettent. Quand on va quelque part, on se renseigne, on se documente, et on trouve là-dedans les choses à voir, les choses à éviter, les dangers, les risques, toutes les préparations qu'il faut faire. Et en lisant le texte du jour, j'ai pensé que pour nous chrétiens, on a aussi un guide du routard. On a un guide qui nous donne la meilleure des nourritures spirituelles. On a un guide qui nous donne le chemin étroit qu'il faut prendre pour aller vers de grands horizons. Et on a un guide qui nous donne aussi toutes les contre-indications, les choses à pas faire, les embûches, les pièges à éviter. Je pense que vous l'avez reconnu, ce guide c'est celui-ci, c'est la Bible. Et j'espère que pendant cet été, période de vacances j'espère pour la plupart, vous partez aussi en vacances avec ce guide-là. Celui-là c'est bien, mais celui-là c'est mieux et il va vous servir jour après jour. Et donc, on va parcourir ensemble la fin de l'épître de Pierre. Je ne sais pas si c'est possible de lancer le diaporama. Et on va voir un petit peu, dans cette fin d'épître, ce que l'apôtre Pierre donne pour nous, routards chrétiens, comme indication. Alors. Donc ça, c'est une épître qu'on a vue donc dans notre église. Et on a découpé l'épître. Il y a trois chapitres. On a découpé chaque chapitre en deux. On a vu un petit peu les différents éléments que je vous affiche là pour vous donner un peu l'arrière-plan du texte. Ah, il y a l'écran devant. Parfait, merci. Pour vous donner l'arrière-plan du texte sur lequel on va travailler ensemble aujourd'hui. Donc, il commence le premier chapitre en nous disant que Dieu nous a tout donné et qu'en retour, pour progresser, en reconnaissance, on se doit de progresser, de le connaître et de le servir davantage. Ensuite, il va nous expliquer que c'est grâce à la parole, qui est le fondement d'une vie centrée sur l'évangile, qu'on peut progresser. Donc ça, c'est le fin du chapitre 1. Au chapitre 2, il va nous dire, attention, dans l'Église, même dans l'Église, vous pouvez avoir des prédateurs spirituels. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre. Et il nous met en garde contre des gens qui pourraient avoir de mauvaises intentions. Il nous dit aussi, à la fin du chapitre, qu'attention, il peut y avoir des faux enseignants. Des gens qui ont des habitudes chrétiennes, qui ont un vernis chrétien, comme on appelle, mais qui vivent dans le péché, qui peuvent vous entraîner soit volontairement, soit juste par contamination. Enfin, le chapitre 3, il commence en présentant les jugements passés qu'il y a pu avoir, comme le déluge. Et il nous dit, voilà, ces jugements sont aussi un indice de ce qui va se passer plus tard. Il va y avoir un jugement. Et est-ce que vous êtes prêt à ce jugement qui va avoir lieu? Ce sera un jugement cataclysmique, personnel et universel. Et Pierre conclut sa lettre donc avec les versets, je vais prendre les versets 14 à 18, donc là vraiment la fin du chapitre, en nous laissant une ligne de conduite et les outils essentiels pour notre marche avec Dieu. En gros, il nous donne un résumé en 150 mots du guide du routard chrétien. Son objectif, c'est notre croissance spirituelle. Il va nous rappeler sur quelle base nous devons construire. Cette base, c'est la parole de Dieu. Et quelles sont les attitudes que l'on va devoir chercher à développer pour rendre gloire à notre Dieu. Alors imaginez qu'un jeune ami parte, et bien là, ça va être à Madagascar dans quelques temps, vous restez et vous le préparez, vous le coachez. Alors, il va venir vous voir parce que vous avez de l'expérience, peut-être vous êtes déjà allé, et vous avez détaillé avec lui toute la liste de choses à prendre, les choses à faire, les choses à pas faire, les vaccins, etc. Et là, vous êtes sur le quai de la gare, il va partir, et vous allez lui donner un condensé, vraiment, les trois petites choses là qu'il faut vraiment que tu gardes en tête avant de partir. Et c'est ce que nous fait Pierre dans le passage du jour. Alors on va voir en quatre points. Déjà, c'est le cœur du routard qui compte. Quelle est son attitude, sa manière d'appréhender la vie, sa manière de vivre. Ensuite, on va voir que pour partir, il faut avoir une bonne carte, un bon guide. Et là, c'est le guide dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la Bible, la parole de Dieu. Pierre va nous montrer qu'il y a des dangers aussi. Pour nous, chrétiens, il y a des dangers sur la route. Il faut faire attention, il y a des obstacles à franchir. Et enfin, il faut avoir, un texte nous dit, les yeux fixés sur Jésus. Il faut avoir un but, il faut avoir un objectif dans nos vies. Et c'est ce que Pierre va nous dépeindre en quelques lignes. Je vous propose de lire ensemble 2 Pierre, chapitre 3, versets 14 à 18. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures, pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Avant de continuer, je vais prier, puis on va regarder ce texte d'un peu plus près. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole, merci pour ce guide que tu nous donnes, qui nous aide à cheminer pas à pas dans notre vie de tous les jours et dans notre vie avec toi. Et je te prie ce matin d'ouvrir nos cœurs, de nous aider à comprendre le message que tu as pour nous, et de corriger aussi les erreurs que je vais pouvoir dire, que ton esprit puisse vraiment être présent et agir. En ton nom, amen. Alors j'ai l'habitude de couper les textes en petits morceaux pour mieux comprendre. Donc on va prendre juste les deux premiers, le premier verset et le début du deuxième. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. C'est pourquoi, dans cette attente. Alors quand on lit ça dans un texte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui précède avant. Il fait référence à autre chose. Alors je vais peut-être vous laisser travailler. Je pense que vous avez à peu près tous une Bible. Sinon, j'en ai vu qu'il y en avait au fond. Et je vous laisserai juste rechercher courtement et puis dire à voix haute ce à quoi se réfère l'apôtre Pierre ici. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais n'hésitez pas. Si vous voulez participer, c'est avec plaisir. Le jugement final, son retour, le jour du Seigneur. Donc on voit au verset 7, le jour du jugement. Verset 9, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Verset 10, le jour du Seigneur encore. Le jour de Dieu, verset 12, et la venue d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, au verset 13. Donc, quand on place notre confiance en Dieu, quand nous acceptons sa main tendue et l'acceptons comme sauveur et Seigneur, nous prenons part à cette nouvelle espérance. Jésus reviendra un jour selon sa promesse. Amen. C'est ça le jour du Seigneur. Et il est écrit en Apocalypse 21, verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. » Versets 4 et 5, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Quelle belle perspective. Quand on lit ces textes, waouh, ça nous réconforte, ça nous redonne de l'espoir. Et on sait qu'un jour, toutes nos difficultés seront anéanties, ne seront plus là, et on sera dans la présence de Dieu. Là, on a envie de signer tout de suite et dire, ouais, c'est pour demain. Et ça, c'est notre espoir à nous, chrétiens. Alors, si on revient au texte, comment l'apôtre Pierre dit qu'il faut se comporter dans cette attente ? Il nous donne deux choses, deux éléments. On doit faire nos efforts. Dans quelle direction ? Pour être sans tâche et irréprochable dans la paix. Alors qu'est-ce que c'est qu'une tâche pour un chrétien? Le péché. Excusez-moi, d'ici, j'entends quelque chose. Vous m'entendez bien, mais pas l'inverse, il faut parler fort. Donc c'est le péché, bien sûr. Et irréprochable dans la paix. Je ne sais pas si vous connaissez, vous devez connaître cette prière du XIIIe siècle, il y a un chant qui l'a repris, qui dit « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ». La paix, c'est jamais un acquis. Mais une fois que nous avons fait la paix avec Dieu, on est appelé à transposer cette paix dans nos relations. Romains 12, verset 18 nous dit « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Faire tous nos efforts, c'est pas rien, c'est tout un programme. Pierre ne nous pousse pas à être tiède, à être un peu chrétien, juste un peu le dimanche matin, mais pas trop quand même. Il nous encourage à nous donner entièrement dans notre engagement à marcher avec Jésus. C'est intéressant de voir que la vie chrétienne, c'est pas une vie égoïste. Dans ce texte, je le vois parce qu'il nous parle de paix. Et la paix, il y a la paix intérieure et personnelle qui est exprimée plus dans le fait d'être... notre vie intérieure, c'est dans le fait d'être tout retrouvé sans tâche. Mais il y a toujours le pendant tourné vers Dieu et tourné vers les autres qui est exprimé par la paix. On peut développer l'idée en disant que quand on fait la paix avec Dieu, quand on se convertit, on retrouve la paix avec Dieu qui nous donne une paix intérieure. Mais de là, ça va nous pousser à chercher la paix avec nos prochains, pour autant que cela dépende de nous. Alors quand on considère les bienfaits futurs du retour du Seigneur et qu'on considère la difficulté présente de marcher sans tâche et sans paix, et en paix, on peut souhaiter que Dieu accélère le jour de son retour. Et ça, Pierre l'a prévu ici, le début du verset 15. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. C'est un rappel du verset 9. Vous pouvez chercher un peu plus haut dans votre Bible. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à leur repentance. Alors si Jésus n'est pas encore revenu, c'est pas qu'il tarde ou qu'il prend son temps. C'est qu'il souhaite que le plus grand nombre se tourne vers lui. Chaque jour est une grâce où chacun est invité à saisir la main de Dieu. Dieu t'aime et l'a envoyé en envoyant Jésus sur terre. Il a prouvé en envoyant Jésus sur terre. L'humanité était en révolte contre Dieu. L'humanité méritait la mort pour ça. Je méritais la mort pour ma rébellion. Et Jésus a pris cette condamnation à la place de l'humanité, à ta place, à ma place. Il ne nous reste plus qu'à accepter cette grâce immense pour entrer dans la paix de Dieu. Il nous fait un cadeau immense, inestimable, la promesse d'une vie éternelle à ses côtés. Notre responsabilité, c'est de l'accepter par la repentance et en reconnaissant que nous sommes rebelles et qu'on a besoin de son amour. Alors dans cette démarche, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné sa parole, la Bible, notre guide du routard. Et c'est le sujet des prochains versets. Fin du verset 15 et verset 16, notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve, certes, des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures, pour leur propre ruine. Le texte d'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est la fin de la seconde épître de Pierre, et il fait appel à ce qui a été dit pour essayer de transmettre son message le plus efficacement possible. Alors il s'appuie sur ce que Paul a pu écrire, et il le cite nommément, et il soulève un point essentiel dans la lecture et l'interprétation de la parole de Dieu. Les textes ne se comprennent vraiment qu'à la lumière les uns des autres. C'est une règle de base quand on commence à étudier la Bible, c'est de prendre en compte l'ensemble de la Bible, l'ensemble des textes, avant de donner une interprétation trop particulière à un passage. Et on comprendra mieux l'épître de Pierre en la mettant en perspective avec celle de Paul, et vice-versa. Chacune apporte quelque chose, un éclairage différent. Et si on remonte au début du chapitre, Pierre va plus loin. 2 Pierre 3, verset 1. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Alors quel est le but de Pierre en écrivant ces lignes? éveiller, éveiller une saine intelligence. Il veut aussi qu'on se rappelle les prophètes et commandements du Seigneur. Les paroles des prophètes, c'est l'Ancien Testament, la première moitié, la grosse première moitié de la Bible, et le commandement du Seigneur, c'est le Nouveau Testament. Il nous montre ici que la parole de Dieu est un tout, qu'on peut le comprendre pleinement qu'en le considérant dans son entier. Tout l'Ancien Testament, qui est quand même une grosse partie de la Bible, des fois, surtout quand on est jeune converti, on n'aime pas trop la lire parce qu'on ne comprend pas trop. Mais tout l'Ancien Testament nous prépare la venue de Jésus et nous permet de comprendre les notions fondamentales. L'Ancien Testament commence par la création de l'homme et de la femme à son image, à l'image de Dieu. On voit que l'homme et la femme se rebellent contre Dieu et qu'ils sont condamnés pour leur rébellion. La suite, c'est la démonstration de l'amour de Dieu qui construit un plan de salut pour l'humanité. Il prouve par la même occasion qu'aucun salut ne peut être accompli s'il repose sur l'homme et qu'il y a besoin d'un sauveur répondant aux exigences divines, qui est Jésus. L'Ancien Testament nous explique ce que c'est que le péché, il nous explique le besoin de sacrifice. On ne peut pas comprendre le sacrifice de Jésus si on ne lit pas l'Ancien Testament. Et ce fil rouge nous permet de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe dans les évangiles. Donc, comme j'ai dit, le sacrifice, donc comprendre sa valeur, comprendre pourquoi, grâce à ce sacrifice, on a un libre accès à Dieu. Et les épîtres qui suivent les évangiles sont des guides qui nous permettent de comprendre les implications d'un si grand salut. Une fois qu'on est sauvé, c'est pas la fin en soi, c'est au contraire le début du voyage. Alors non seulement Pierre insiste pour qu'on considère la parole dans son ensemble, mais il en rajoute en soulignant que certains passages sont difficiles et qui peuvent conduire à des erreurs d'interprétation. Alors il nous parle ici de personnes ignorantes et mal affermies. Personne ignorante, l'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître. Alors que ne pas être affermi, comme ça c'est peut-être un peu plus compliqué d'abord, mais c'est le fait de ne pas être convaincu de ce qu'on connaît. On peut connaître intellectuellement plein de choses, mais ensuite il faut quand même être convaincu pour pouvoir l'appliquer dans notre vie. Le message biblique, pour qu'il ait un impact dans notre vie, il ne va pas s'appuyer sur les connaissances, mais sur nos convictions. Alors, je me suis posé la question, comment on peut éviter ces deux écueils, l'ignorance et le fait d'être mal affermi. Alors, l'ignorance, je ne sais pas si dans votre église, comment vous pratiquez, mais j'ai vu qu'il y avait des cours « Famille, je t'aime ». Ça, c'est des moyens pour le combattre contre l'ignorance sur des sujets ciblés. Mais il y a forcément la lecture de la Bible. Mais peut-être qu'on a besoin d'aide pour lire la Bible. Peut-être qu'on commence la lecture de la Bible. Donc on peut avoir de l'aide de personnes plus âgées dans la foi et qui vont nous accompagner à découvrir la Bible, à découvrir la parole. Il y a je ne sais pas si vous faites des groupes de croissance. Voilà, il y a plein de choses qui nous permettent de combler notre ignorance, de se former. Mais ensuite, concernant le fait d'être affermi ou mal affermi, c'est notre attitude qui va compter, qui va rentrer en compte. C'est quand on lit la Bible, est-ce qu'on se laisse toucher par la Bible ou est-ce qu'on regarde juste ça d'une manière distante? Est-ce qu'on est ouvert à ce qu'on lit? Est-ce qu'on médite? Est-ce qu'on essaie de mettre en application ce qu'on lit? Et le risque de l'ignorance ou du manque de conviction, c'est de tordre le sens des Écritures. C'est pour ça que Pierre nous met en garde. Ceux qui tordent le sens des Écritures le font pour leur propre ruine. Et moi qui suis devant vous aujourd'hui, qui parle de la Bible, j'espère ne pas tordre le sens. C'est vraiment ma prière chaque fois que je prêche, c'est de rester dans ce que dit la Bible et de ne pas entendre le sens. Et votre responsabilité à vous, si j'entends le sens, c'est de venir me voir à la fin et dire stop, il y a un truc qui ne va pas là. La Bible, c'est la source de vie. Mais si on en prend qu'un petit morceau, si je prends quelques pages ici dans la Bible au hasard, et que j'en fais une interprétation personnelle, elle risque fort d'être contraire au message de la Bible, et je vais aller droit dans le mur. Le risque est là, et on doit être vigilant. Et de nombreuses sectes sont parties de textes bibliques, de vrais textes bibliques, du même que vous avez dans vos Bibles, mais l'ont déformé ou l'ont isolé du reste de la Bible, et sont parties dans des choses qui sont complètement éloignées du message de la Bible. Alors, un petit exemple qui va vous faire sourire. Comment est-ce que vous êtes confronté à une personne qui est stupide. Stupide selon la Bible, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Et vous essayez de le raisonner un petit peu. Vous avez besoin de travailler avec lui, par exemple. Alors vous êtes quelqu'un qui cherche son chemin dans le guide de votre guide du routard à vous. Alors vous cherchez dans la Bible et vous tombez sur ce verset. Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Alors si vous prenez que ça, bon, la personne stupide, je ne réponds pas selon sa folie, ok. Par contre, si vous piochez ailleurs, vous allez tomber sur ça. Réponds à un homme stupide selon sa folie, si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. C'est exactement l'inverse de ce qui vient d'être dit. Donc c'est juste pour vous montrer que les passages, s'ils ne sont pas pris dans leur contexte, vous risquez de mal les comprendre. Parce que les deux sont dans le même chapitre des Proverbes, ces deux versets juste côte à côte, et ils sont mis ensemble pour souligner qu'il y a un côté aberrant à vouloir travailler avec quelqu'un qui ne veut pas entendre, quoi. Si quelqu'un vraiment ne veut pas entendre, que vous lui parliez, que vous ne lui parliez pas, ça ne changera rien, rien ne va y faire. Mais souvent dans la Bible, on fait un petit peu la même chose, pas sur des exemples aussi basiques que ça. Mais on prend des choses qui nous plaisent bien, et puis on laisse de côté ce qui va nous gêner un petit peu. Alors c'est important d'étudier donc la Bible dans son ensemble, dans le message central de la Bible, et aussi de comprendre quel est le style du texte. Il y a des textes qui sont poétiques, des textes qui sont narratifs, des textes historiques, il y a plein de façons, il y a des publics visés différents, donc les façons de présenter les choses différentes. Il y a une culture différente. L'Ancien Testament qui a été écrit il y a quand même très longtemps, des milliers d'années, forcément ils n'avaient pas les mêmes règles rhétoriques pour écrire, ils n'avaient pas les mêmes façons de présenter les choses. Et quand on rentre dans le détail, on comprend pourquoi ils l'ont écrit comme ça. J'ai fait récemment un cours sur le Pentateuque, et en fait ça reprend une façon d'écrire des traités entre les rois et leurs vassaux de l'époque. Et quand on comprend ça, à la lumière des autres écrits de cette époque, on comprend beaucoup mieux l'architecture du texte, et c'est beaucoup plus riche. Et plus on connaît ces éléments, et plus on va pouvoir comprendre le texte qui nous intéresse, et le transposer de là-bas il y a longtemps, à ici et maintenant. Et je pense que c'est le but quand on prêche et quand on lit la Bible, c'est d'arriver à prendre le texte et à l'amener au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie, et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Et ça va nous permettre de nous préserver de tordre le texte. Alors c'est sur ces bases solides qu'on va pouvoir grandir en connaissance et conviction, éviter certains dangers de la route. Donc on a parlé du danger de tordre le texte, mais il y a aussi un autre danger présenté au verset 17. « Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. » Quel est le risque de ce passage ? Voilà, donc se laisser entraîner et perdre sa position. Donc ça peut être des erreurs doctrinales, des hérésies. Pardon, je suis allé trop vite. Ça peut être un effet de contamination. Et là, l'apôtre Pierre ici nous donne qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça ? Se méfier, se tenir sur ses gardes, être prudent. Et pour ça, comment on peut faire ? Alors là, j'en appelle, c'est pas écrit. Comment on peut se tenir sur ses gardes quand on voit des gens qui vivent autour de nous ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, j'ai pensé déjà avoir un esprit critique, ne pas tout prendre comme étant on est pécheur. Et quand on sait qu'on est pécheur, et vu moi personnellement, vu le nombre d'erreurs que je fais dans ma vie, je me dis que la personne en face peut en faire aussi, donc je vais faire attention, je vais être un petit peu prudent. Je vais mettre en perspective les situations par rapport à ce que dit la Bible. Je vais écouter ce que j'entends est conforme au message de la Bible. Et est-ce que mon comportement est inspiré seulement par imitation d'un autre ou par conviction ? C'est bien d'imiter d'autres personnes. Je sais, il y a des personnes qui influent ma façon d'être et que je les prends pour modèle. Mais attention, il faut quand même être vigilant parce que toute personne qui n'est pas Jésus-Christ peut se tromper, peut faire des erreurs, et si je limite aveuglément, je vais me planter moi aussi. Et en fait, de tout temps, il y a des impies, c'est-à-dire des personnes qui méprisent ou qui sont opposées à la religion. Et ces personnes ont tordu le sens réel des Écritures pour leur propre intérêt. Ils ont créé leur propre religion. Et là, ce qu'on parle, c'est ceux qui ont créé leur propre religion avec un vernis chrétien. Il y a des parties entières de leur croyance qui sont conformes à la Bible, mais il y a des parties entières qui sont opposées au message biblique. Et ces personnes adorent un Dieu qui ressemble peut-être à votre Dieu, au Dieu de la Bible, mais qui a des différences. Et là, dès qu'on met une différence au Dieu qu'on adore, c'est plus le Dieu de la Bible. C'est notre Dieu, c'est celui qu'on se fait à notre image. Le Dieu qui sauve, ce n'est pas celui qu'on se crée, mais c'est celui qui se révèle dans la Bible. Et il est important d'être sur ses gardes et de ne pas se laisser entraîner vers des faux dieux. Alors c'est pas, je ne veux pas vous faire peur avec ça, c'est pas la chasse aux sorcières, mais il faut être vigilant. J'ai une connaissance proche dans la famille qui s'est fait entraîner un temps par une secte. Alors la Bible était présente dans leur rencontre au début. On n'y a vu que du feu, nous, la famille autour. Enfin, moi, j'étais jeune à l'époque, j'avais 16 ans. Ils pratiquaient la prière, ils étudiaient la Bible, etc. Mais ce qui m'a choqué, c'est le jour où ma tante a prié pour moi parce que j'avais un problème à l'œil. Et elle parlait pas à Dieu comme un Dieu créateur et souverain. Elle parlait à Dieu comme son larbin. Elle s'était mis, elle, à la place de Dieu. Et c'est Dieu qui devait lui obéir à elle. Je dis, mais c'est quoi ça? J'étais vraiment choqué par ça. Et après, on a creusé un petit peu, puis on a vu que c'était pas du tout un mouvement évangélique conventionnel, mais que c'était bel et bien une secte dans laquelle elle était tombée, et il y avait beaucoup d'autres choses. Et c'est insidieux, parce que ça prend des belles apparences. Alors, ce type de dérive, c'est pas facile à cerner, et ça peut vraiment vous déstabiliser. Comme le dit le texte d'ailleurs, de peur que vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. J'avoue que pendant un temps, je me dis, mais je prie pas comme il faut, ou pourquoi elle prie comme ça et pas moi? J'étais déstabilisé par ça. Alors là, la position, on parle pas de perdre son salut, ça serait tordre le texte, attention. Mais ça serait perdre son équilibre spirituel. De ne plus savoir comment avancer avec Dieu. Ça serait de passer au point mort. Et de rester sur le bas-côté du chemin, ne plus avancer vers l'objectif de tout routard chrétien. Et on va finir par ça, le verset 18. « Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Certes, il y a des dangers sur la route, mais un routard a un but. Il a un objectif en vue. Alors quel est l'objectif ici ? Grandir. Grandir dans la grâce et dans la connaissance. La grâce de Dieu, c'est l'expression puissante de son amour pour nous. C'est cette main tendue qui fait de Jésus notre Sauveur. C'est aussi une grâce qui se communique. Dieu, dans sa grâce et en vertu du sacrifice de Jésus, me pardonne mes erreurs, pardonne mes péchés. Mais si j'ai compris ça, comment je vais me comporter envers celui qui me fait du mal ? Quand j'ai compris que Jésus m'a pardonné de tous mes péchés, comment je vais me comporter? Je vais me mettre en colère? Oui, je vais le faire, mais dans l'idéal, selon la Bible. Je vais essayer de pardonner en retour. On va faire grâce. Et plus on va comprendre la grâce de Dieu pour nous, plus on va faire grâce autour de nous. Alors ça, c'est clair que c'est pas facile et c'est un combat de tous les jours. Mais plus je grandirai dans la compréhension et l'appropriation de cette grâce, plus je pourrai faire grâce. C'est pas pour rien qu'ici la grâce est associée à la connaissance. Il y a un lien étroit. Plus nous apprenons à connaître Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour nous, plus nous comprendrons sa grâce et ses conséquences pour nous. Et cet objectif de croissance illustre une vérité chrétienne. L'acte de salut n'est pas une fin en soi, mais c'est le début d'une aventure. On peut illustrer le salut par une porte qu'on franchit. C'est un premier pas important, mais c'est aussi le début d'une marche avec Dieu. Donnons-nous la peine de vivre cette aventure en grandissant, en cherchant à le connaître toujours un peu plus. Alors la conversion, c'est comme quand on part en voyage, voilà, j'ai mon guide, je viens de rentrer dans l'avion. Mais maintenant, le voyage commence. Et c'est un voyage, vous n'allez pas le faire tout seul. Parce que vous avez un guide qui a bien plus de valeur que celui que je vous ai montré au début, qui est celui-ci. Et Jésus, il y a deux adjectifs qui le qualifient ici. Il est Seigneur et Sauveur. Et c'est important aussi, j'avoue que plus jeune, je ne faisais pas forcément attention, Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ, oui, c'est Jésus, quoi. C'est important comment il est qualifié. Il est Seigneur, c'est-à-dire que toutes choses sont dans ses mains. Il est tout-puissant, rien n'est hors de son contrôle. C'est-à-dire que quand vous partez avec Jésus, tout ce qui va se passer, il l'a autorisé, il l'a prévu, il l'a voulu pour vous. Mais il est aussi Sauveur. Il vous sauve, il nous sauve de notre rébellion avec Dieu, il nous offre un avenir fait d'espérance, il nous offre le salut. Et le fait qu'il soit les deux nous rassure. Que pourrait faire un Sauveur s'il n'était pas Seigneur? Il ne pourrait pas nous sauver s'il n'était pas tout-puissant. Il ne pourrait pas empêcher certains événements, il ne pourrait pas diriger nos vies. Mais si nous avions un Seigneur qui ne soit pas Sauveur, ça serait dramatique. On serait juste des esclaves, des pandas entre ses mains. Mais il est les deux, ce Seigneur et Sauveur. La puissance et l'amour, la majesté et la grâce, on ne peut que s'associer à l'apôtre et dire avec lui, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est notre objectif final. C'est ce que je voudrais vous laisser pour cet été. C'est de lui rendre gloire maintenant et pour l'éternité, en reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour vous, de ce qu'il va continuer à faire. Et je vous encourage à ne pas oublier votre guide du routard qui va vous servir tout l'été et toute votre vie. Bon été, bonne route à chacun. Merci.